10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Juliette Funès, bonjour.
Bonjour.
Oscar Wilde disait « ôtez-moi le nécessaire, mais de grâce, laissez-moi le superflu ». Qu'est-ce qui est essentiel ou pas ? La question aura en fait été ce duel souterrain durant cette année 2020, en train de s'achever. Une année au cours de laquelle un nano-organisme a dévasté des vies et mis à terre des économies. Et un sentiment de fragilité est devenu un lien maintenant entre tous. Si on cherche également ce qui a pu qualifier la pratique nouvelle des pouvoirs ou du pouvoir, on pourrait aussi la résumer ainsi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors votre dernier livre s'appelle « Ce qui changerait tout sans rien changer » aux éditions de l'Observatoire. Ça tombe bien parce que si l'on interroge les Français, ils vont sûrement être nombreux à dire que pour l'avenir, eh bien, ils espèrent tout simplement que tout reviendra comme avant. Je note d'ailleurs pour une fois que vous n'avez pas placé de parenthèse dans le titre lorsque vous avez écrit sur l'imposture du développement impersonnel ou brocardé avec Nicolas Bouzou la comédie inhumaine, à chaque fois une parenthèse. La parenthèse, c'est ainsi qu'il faut qualifier l'année qu'on a vécue ?
Une parenthèse sur le charme de l'existence, sur tout ce qui fait le charme de la vie, oui.
Alors, philosophie, on va en parler. Philosophe et spécialiste d'une ressource qui reste essentielle, la ressource humaine. Votre patronyme est devenu aujourd'hui synonyme de la réflexion philosophique. Et on oublie, ou on apprend pour certains, que vous êtes la petite fille de Louis de Funès, cet immense acteur comique qui a trouvé cette année aussi une nouvelle consécration, on va en parler. Et vous nous direz comment, au pays de Molière, la comédie peut rester et être un manuel de sociologie et de philosophie. Pour ce grand rendez-vous, je salue Nicolas Barré des Échos, Damien Fleurot de CNews, qui vous pose la première question.
Oui, bonjour.
Bonjour.
2020 aura été l'année de la parole présidentielle. Plus d'une dizaine d'interventions d'Emmanuel Macron entre les allocutions et les interviews, sans compter celle des vœux du 31 décembre. Écoutez ce florilège en quelque sorte.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction.
Juliette Funès, Emmanuel Macron, ce président qui nous a accompagnés tout au long de cette année, est-ce qu'il nous a accompagnés dans une société plus infantilisée ?
Infantilisée en tout cas, oui, soumise à une bureaucratie, à une légalomanie de plus en plus forte. On a vu que l'hygiène, maintenant la santé devenait l'objet de nouvelles normes. On a appliqué des procédures, quand bien même elles nous semblaient absurdes, il y en a eu un certain nombre et la plupart étaient justifiées, mais on a appliqué pour appliquer. Et moi, ce qui m'importe beaucoup aussi en ce moment, c'est à l'heure de l'intelligence artificielle, on s'inquiète toujours de l'intelligence artificielle qui rivaliserait avec l'intelligence humaine. Ce qui m'inquiète plus, c'est l'intelligence humaine qui s'artificialise très vite dès lors qu'elle accepte qu'elle se soumet à des procédures qui sont dans la plupart des cas nécessaires, justifiées, légitimes, mais dans beaucoup d'autres cas totalement absurdes. Dès qu'on fait d'un moyen une finalité, dès qu'on fait de la procédure le sommet des priorités au détriment du sens de la situation, c'est là qu'on tombe dans l'absurdie et on n'a pas beaucoup d'armes pour se révolter, mais en tout cas avoir un certain discernement, esprit critique.
Absurdistan, c'est vrai qu'on a beaucoup vu cet hashtag circuler en cette fin d'année. Nicolas Barré.
Et cet État qu'on voit omniprésent aujourd'hui, qui sauve l'économie, mais en même temps qui régit nos vies, qui nous dit quoi faire, on parle parfois même d'État nounou, à votre sens, qu'est-ce que ça dit de nous, des Français ?
Alors, j'ai eu un peu le sentiment, et au tout début du premier confinement, qu'on était assez chapeautés, docilisés, comprimés. Il y a des psychologies qui aiment être sur des rails, sur du procédural. Vous savez, c'est Kant qui disait de même que... Alors, il ne parlait pas du Upala, c'est anachronique, mais des roulettes pour enfants qui valent à nos Upala. De même que l'Upala dispense les bébés d'avoir à marcher, les process dispensent les esprits d'avoir à penser. Donc, c'est confortable de ne pas penser. C'est assez agréable. Et en même temps, c'est terriblement liberticide. Donc je crois que malgré tout, sans critiquer le gouvernement, il y a eu une phase peut-être un peu d'angoisse, d'urgence, où on a voulu dociliser les individus, mais lors du deuxième confinement, on a vu aussi que les Français n'étaient pas si soumis que ça et qu'il y a eu un juste milieu quand même malgré tout entre une certaine liberté individuelle et puis la mission de l'État de protéger et de sécuriser les choses.
En fait, vous ne pensez pas qu'on est allé trop loin dans l'atteinte aux libertés, puisque ça a été un débat quand même en cette fin d'année.
C'est le le débat encore qui va se
J'avais écrit même des textes dans le Figaro au tout début où je me suis dit, mais l'hygiénisme va trop loin. On ne peut pas faire de la santé la priorité absolue au détriment des vies économiques, vies psychologiques des individus. Mais je trouve qu'il y a eu, de la part du gouvernement, même un certain recul, une certaine prise de conscience, et qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de penser qu'on est dans un gouvernement liberticide. C'est presque un peu indécent de dire ça, même si c'est très contraignant et ennuyeux. Mais malgré tout, je trouve qu'on a quand même, malgré tout, gardé une certaine liberté individuelle.
On a quand même entendu, il y a quelque temps, un Premier ministre, Jean Castex, qui disait « Moi, je suis un libéral et jamais je me serais imaginé en train de régir les vies des gens pour leur dire combien de personnes ils doivent mettre autour de leur table ou si les enfants doivent sortir ou pas de l'école. » C'est quand même une... Pour tout le monde, c'est quand même, au fond, on prend conscience d'une forme de mutation quand même dans la culture politique et dans les gouvernances.
Oui, c'est une mutation et ça signale quelque chose. Au-delà d'une faute gouvernementale, ça signale à quel point l'hygiénisme rentre dans le pouvoir, à quel point la santé rentre dans le pouvoir. Et ce qui est très dangereux, c'est que le pouvoir se transforme en biopouvoir, bio au sens de la vie.
On a vu quand même ces dernières années que le budget justement alloué à la santé n'avait pas... cesser de baisser a priori, où il y avait eu un sous-investissement.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça le paradoxe inouï, c'est effectivement les moyens sont moindres, mais la moralisation sur l'hygiène est d'autant plus importante. Et c'est ça qui est plus grave, cette uniformisation, cette moralisation, la santé est devenue une morale, la vie saine égale la vie bonne, la santé est devenue du civisme, nos comportements sociaux sont dictés par les gestes barrières, la santé est devenue politique, puisque les politiques se sont énormément appuyés sur les conseils scientifiques, donc vous voyez qu'elle prend la place dans toutes les sphères sociales. Et c'est ça qui me semble le plus inquiétant, effectivement.
Alors qu'on est aussi malade, même sans le savoir, puisque cette maladie se transmet même sans qu'on le sache. On a entendu le président de la République parler de la guerre. Hein. Il a posé cette enseigne dès le mois de mars. Nous sommes en guerre. Une guerre, ça mène toujours, au fond, à un nouveau modèle économique et social. Ça fait émerger des nouvelles manières de fonctionner. Est-ce que le télétravail restera année de naissance, année 2020?
Alors, année de naissance, non, parce qu'il était quand même existant
à
avant
la conscience de tous,
COVID,
et à la pratique
mais
de masse.
Oui, il a été généralisé, massifié durant cette année-là, c'est sûr. Et pour moi, ça s'inscrit dans une tendance de fond, dans un temps long. C'est pas un effet de mode. C'est un avantage assez majeur pour la plupart des salariés. Ça laisse de l'autonomie, de la liberté psychologique, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inconvénients au télétravail qui sont graves, qui sont d'ordre politique d'ailleurs, l'amplification des inégalités sociales notamment. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un temps très long et qui modifie non pas simplement notre rapport au travail, mais le sens du travail, le sens de l'entreprise, le sens du management et même la gestion de nos vies, parce que la dichotomie vie pro-vie perso est d'autant plus difficile à compartimenter qu'on est en télétravail.
Cette pandémie, elle agit aussi comme un comparateur planétaire parce qu'elle touche de façon différente tous les continents, les masques, les tests, les vaccins. Chaque pays a donc mis en place des protocoles, des codes, un mode de fonctionnement. On a l'impression qu'en France, chaque étape a été difficile, parfois un calvaire, qu'il y a eu des protestations à tort ou à raison, selon vous?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de protestations. On a été assez docile, malgré tout, responsable.
Ces élus qui ont signé des arrêtés préfectoraux,
oui,
par exemple.
Mais on aurait pu, même quand on pense aux restaurateurs aujourd'hui ou personnes qui sont vraiment très difficilement touchées aujourd'hui, on se demande même pourquoi il n'y a pas un peu plus de désobéissance civile. La désobéissance civile, ce n'est pas du tout une mauvaise humeur ou un refus adolescent de citoyen, mais c'est un acte réfléchi qui pense...
C'est une façon de placer le curseur, comme vous
le
disiez.
Oui, qui pense que le sens de l'avenir ordonne l'insoumission. Et quand le sens de l'avenir, c'est sa survie économique, sa survie psychologique, on peut quand même se dire, est-ce que ce ne serait pas légitime là d'avoir une forme de désobéissance civile? Je n'appelle pas du tout à la désobéissance civile.
C'est différent de la révolte.
Oui, oui, mais on n'a pas du tout été trop, oui, très
révolté. Parce que c'est un débat quand même qui a émergé, hein, cette soumission, cette obéissance. On l'a vu même au-delà de la France d'ailleurs.
C'est la grande
pratique en fait de cette année.
Il y a deux mentalités au-delà de la maladie sur l'impact sur les corps. Il y a eu deux mentalités qui se sont distinguées au sein des Français, c'est-à-dire les élateurs du risque zéro, du moindre risque, on sécurise tout et on fait de la santé la priorité absolue de nos vies. Et puis ceux qui font de la santé un moyen au service de finalités supérieures, autres, politiques, peu importe, la liberté, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment deux catégories de personnes qui sont très nettement apparus, oui.
Mais où sont passés ces Français rebelles, ces Français justement, qu'est-ce qui explique cette docilité? C'est la peur de la mort?
Rebelles, on a quand même des manifestations régulières tous les jours dans notre pays. On n'a pas non plus totalement oublié notre esprit critique et notre discernement. Mais je crois que quand on est touché dans sa sécurité physique, personnelle, dans sa vulnérabilité, c'est difficile de ne pas ressentir la nécessité d'une action commune. Donc on a forcément fait preuve de solidarité, de responsabilité, puisque aussi on était impacté individuellement.
Alors vous parlez justement d'action commune. Premier confinement, une action commune, un rituel, 20h, les fenêtres s'ouvrent, tout le monde va sur son balcon ou à sa fenêtre, tout le monde applaudit les personnels soignants, les héros de la nation. Deuxième confinement, c'est oublié. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, j'avais trouvé que c'était sympathique ce geste, mais un peu
insuffisant. Vous avez ouvert vos fenêtres à 20h, vous?
Non, parce que j'étais gênée d'ouvrir mes fenêtres. Je me disais, c'est quand même indécent. Et je ne critique pas du tout les gens qui le font. Il y avait vraiment une ferveur, une spontanéité, une sincérité dans l'acte de le faire. Je ne l'ai pas fait. Moi, je me sentais gênée d'applaudir ces personnels soignants qui, depuis des mois, des années, étaient dans la rue. Donc, tout d'un coup, pourquoi? Parce que, justement, on se sent touché individuellement. Là, on se dit, moi, je vais peut-être y passer aussi. Donc, il faudrait peut-être que les lits de réanimation soient libres. Donc, on va montrer une certaine ferveur. Et la preuve, quand le temps passe, quand la menace devient, même si elle est présente, devient moins vive, on perd de vue cette solidarité. C'est très intéressant de montrer que le manque de reconnaissance qu'on connaît là, qu'on rencontre là, n'est pas un oubli de notre part. On n'a pas oublié le personnel soignant, c'est pas une méchanceté de notre part. Pour moi, c'est une dérive démocratique, que Tocqueville avait déjà évidemment bien mieux expliqué que moi là, mais c'est une dérive démocratique facile dès lors qu'on tombe dans l'idéologie égalitariste. Si on est dans l'idéologie égalitariste, le règne de l'équivalence trône.
C'est le pouvoir absolu et doux.
C'est-à-dire que la vérité est remplacée par le relativisme. Mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre. Votre métier ne vaut pas plus que le mien. Tout est équivalent. L'équivalence mène à l'indifférenciation. L'indifférenciation mène à l'indifférence, et c'est-à-dire l'antidote de la reconnaissance. La reconnaissance suppose des hiérarchies, des discriminations, des différences, mais c'est très difficile aujourd'hui d'affirmer des différences parce qu'on amalgame sans cesse les différences avec des inégalités ou des injustices.
On se retrouve avec Juliette Funès pour savoir justement comment avance l'année, comment avance le monde.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et là, on retrouve la philosophe Juliette Funès. L'année 2020, c'était aussi le retour d'un clivage, pas entre la droite et la gauche, mais entre deux France qui s'opposent sur un traitement et peut-être aussi plus profondément. On écoute, on regarde.
C'est un médicament très connu dans la toxicité, très très bien connu et qui est parfaitement, qui coûte rien, 10 centimes le comprimé, et qui est extrêmement facile à manipuler.
Nous n'avons pas les preuves de l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou d'autres traitements d'ailleurs à ce stade. Il est donc dangereux, en l'absence de preuves, de donner ces médicaments comme on donnerait des médicaments qui auraient une autorisation de mise sur le marché.
Sommes-nous, Juliette Funès, entrés dans une sorte de société de défiance générale à l'égard des gouvernants, à l'égard de la science, du progrès ?
Non, si on est dans un état d'esprit de défiance vis-à-vis de la science, c'est qu'on ne comprend pas comment la science fonctionne, parce que la science ne fonctionne que par opposition, contradiction. Bachelard disait que penser, c'était dire non. La vérité est fille de la discussion, pas de la sympathie. Donc il faut bien des contradictions pour arriver à une idée vraie. L'idée vraie, c'est celle qui dépasse les contradictions. Donc
parce
c'est
qu'on
le processus
a aussi vu, pardon, pendant ce premier confinement, on a aussi compris une chose, c'est que les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Le savait avant, il y avait des pièces de théâtre, des tableaux qui racontaient tout cela. Mais là, on l'a vu.
On a vu ce que les penseurs ont écrit depuis des années, voire des siècles. C'est quand on lit les épistémologues, la science ne fonctionne que comme ça. Donc c'est pas une défiance, c'est une prise de connaissance, une prise de conscience du fonctionnement même de la science. Puis là, il y a eu deux mondes scientifiques qui se sont totalement opposés, deux intelligences différentes.
Un sondage récent montrait que les personnels soignants des EHPAD ne souhaitaient pas se faire vacciner. Seulement 19% exactement souhaitaient se faire vacciner, ce qui est très faible. Comment est-ce qu'on explique ça ?
Il y a toute une mythologie du vaccin très forte en France. J'étais ce matin d'ailleurs en conférence chez Pfizer. Et c'est lié aussi aux maladies qui ont parfois, mais ce n'est pas prouvé. Donc tout ça, c'est très nébuleux, qui ont été parfois des conséquences de certains vaccins. Je pense à l'hépatite B ou la sclérose en plaques, etc. Donc il y a tout ça qui reste dans l'imaginaire collectif. Et quand bien même on nous prouve par A plus B ou de façon assez rationnelle l'utilité, la nécessité des vaccins, ça reste ancré dans les mentalités. Donc sur le vaccin, il y a vraiment pour le coup de la défiance. Parce qu'on ne peut pas être dans la connaissance pure, il y a toujours un risque. Donc on est dans de la confiance, dans un pari sur l'inconnu, et le risque l'emporte.
Notre imaginaire collectif, c'est aussi Pasteur, pourtant.
Bah oui, mais on sait quand même pour les vaccins. C'est là qu'on est très ambigu. On sait qu'il y a des vaccins sur lesquels on ne reviendrait jamais, et puis les nouveaux sur lesquels il y a effectivement moins de recul. On a forcément un sentiment de défiance.
Est-ce que vous voyez, vous, une relation, une corrélation entre la défiance qui peut exister à l'égard d'un traitement ou des vaccins, en l'occurrence, et la défiance qui est manifestée à l'égard des gouvernants? On a vu souvent, vous parliez de l'histoire des vaccins. Quand le BCG arrive dans les années 20, il y a une très forte défiance à l'égard des gouvernants et les Français n'acceptent pas ce vaccin. Est-ce que pour vous, c'est un précipité de l'état de défiance vis-à-vis des gouvernants aussi?
Et vis-à-vis, c'est surtout une ligne continue, une défiance généralisée vis-à-vis des grandes autorités, qu'elles soient scientifiques, politiques. On voit très bien que les grandes autorités, les grandes transcendances qui donnaient un sens aux existences, perdent complètement
les
leur
élites,
prestige.
Finalement.
Les élites aussi,
oui.
Ça va exactement dans cette même lignée, perdent complètement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'individuation, d'autonomisation, où l'individu reprend la place suprême et où on n'attend plus de ces gouvernements, de ces scientifiques, forcément un sens
très... un message collectif qui vient organiser les vies individuelles. Comme
oui,
avant,
exactement.
C'est ça,
ouais, c'est ça. Alors, si on va très vite dans l'histoire des idées... j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le temps, mais...
Vous avez au moins quelques minutes.
Non, mais si on parle de l'Antiquité, avoir une vie réussie, c'était une vie en adéquation avec le cosmos. C'était trouver sa place, son topos dans le cosmos. Du temps des grandes religions, c'était avoir une vie alignée avec les commandements divins. Du temps aristocratique, où la question du sens ne se posait pas. On était aristocrate, on avait une vie d'aristocrate, prolétaire, on avait une vie de prolétaire. Au XXe siècle, avec les deux guerres mondiales notamment, on voit que la politique perd complètement de son prestige. Donc l'individu se retrouve seul face au vertige du soi. Toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence. D'où ce mouvement d'individuation.
Vous avez parlé de la défiance vis-à-vis des élites. C'est vrai qu'on l'a vu et un sondage l'a montré. Une étude publiée par la Fondapol, une large majorité de Français, d'électeurs, seraient tentés par une candidature populiste en 2022. Près de 79% qui l'envisagent. C'est un chiffre important. Alors, ça ne donne pas forcément le résultat de la prochaine élection présidentielle, mais que signifie ce rapport à ces candidatures populistes?
Oui. Alors, bon, je vais adopter un point de vue assez hégélien sur la question, mais comme si les hommes politiques étaient finalement les pantins d'une rationalité qui inclut l'irrationalité dans les mouvements politiques. Il y a parfois des phases de délire, d'excès, d'extrême qui font partie de la vie politique pour arriver à une rationalité plus grande. Donc là, on se demande si effectivement l'extrême droite ne sera pas un moment nécessaire, pas au sens souhaitable, mais un moment nécessaire dans la vie politique pour arriver à quelque chose de plus rationnel ou de meilleur. Et puis ce qui explique cette cristallisation sur le populisme, Cynthia Fleury a écrit un livre formidable, on en parlait juste avant, Sigil amer, où elle explique d'ailleurs à quel point le ressentiment est parfois l'origine aussi de cette cristallisation sur des figures populistes ou fascistes. Quand beaucoup de dissensions, de jalousie, de ressentiment se créent entre les individus, c'est un idéal du moi qui est blessé. Donc on en veut un peu à ces élites, à ces
moi pourtant,
ces
mêmes élites, en particulier politiques, depuis des années, n'ont que le mot rassemblement à la bouche, réenchanter le rêve français.
Oui, parce que rassembler dans une forme de ressentiment,
voilà, c'est
pas parce
qu'on est... Une nouvelle cohésion, une nouvelle harmonie, des nouveaux héros.
Oui, mais c'est pas parce qu'on est blessé qu'on peut pas faire cohésion avec tous les blessés. Au contraire, on se sent solidaire des autres moi blessés. Et donc, on critique insidieusement les élites et on préfère une figure plus populiste qui incarne une réparation possible des moi blessés.
Et vous avez là un sentiment que tous les signaux pour que émerge cette candidature populiste en 2022 sont réunis aujourd'hui?
Alors moi, j'ai aucune prédiction, aucune prévision possible. Je suis pas du tout ni politique d'ailleurs, ni sur l'avenir. J'en sais rien.
Non, mais
en tout cas, l'exigence de lucidité aujourd'hui.
Quelles sont les mécaniques profondes
à l'œuvre? Montre qu'il y a énormément de ressentiments dans notre société. Les gilets jaunes hier, aujourd'hui, les problèmes liés au Covid, etc., font que beaucoup d'ingrédients sont malheureusement réunis.
Cette colère est toujours présente. C'est une sorte de colère un peu fondatrice de ce quinquennat, celle des gilets jaunes. Qui vient effectivement de loin, qui s'est exprimée très durement, de manière inédite. Pour vous, elle est encore présente, cette colère?
Alors, moins au sens gilet jaune, on le voit clairement moins dans la rue aujourd'hui, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup de colère. Toute la semaine, les semaines passées ont été ponctuées de manifestations, de sentiments d'injustice, d'incompréhension. Donc ça reste, même si elle change parfois de cible, en tout cas, elle reste très présente. Donc tout, effectivement, les ingrédients sont là, pour qu'un concept, l'incarnation d'un extrême, concorde avec les circonstances.
Damien Fleurot.
Oui, 2020 a démarré, on l'a presque un peu oublié, avec ces feux de forêt en Australie. Et puis il y a eu aussi la Californie, l'Europe, le Portugal notamment ont été touchés. Et puis il y a aussi la fonte des glaces, un iceberg de 110 km² qui s'est détaché. Cyril Dion, auteur, réalisateur, militant écologiste, était à ce micro il y a 6 mois. Pour lui, il y a urgence à agir, on va l'écouter.
Donner des droits à la nature. C'est le sens de l'histoire de donner des droits à la nature à un moment ou à un autre. C'est plus 7 degrés à la fin du siècle. Plus 7 degrés, ça veut dire qu'en 2070, on a un tiers de l'humanité qui vit dans des zones aussi chaudes que le Sahara. Et que donc, nous devons absolument préserver l'équilibre de ces écosystèmes pour pouvoir continuer à vivre sur cette planète.
Alors, 5 ans après l'accord de Paris, les États-Unis finalement reviennent dans le concert des nations pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est plutôt une bonne nouvelle. On est en train de faire émerger un consensus sur ces questions au niveau planétaire, vous pensez ?
Oui, le consensus sur la finalité écologique est évidemment unanime. C'est pour ça qu'un référendum sur ces finalités-là, ça devient un plébiscite, parce que qui pourrait être contre ces intentions écologiques ? Donc ça, c'est vraiment la finalité. On est tous d'accord.
Ce sera utile d'inscrire dans les tables de la loi de la République, la Constitution.
Oui, ce sera utile, mais ça ne fait même pas débat, ça ne fait même pas question. D'une certaine façon, c'est absolument utile, essentiel. Le problème, c'est les moyens. Comment et c'est quelle vision de l'écologie on a. Et il y a une part d'écologie que je trouve très décroissante, régressive, ou qui réduit la vie à l'existence pure. Et celle-là, j'y crois pas du tout. Parce que l'homme, au sens anthropologique du terme, est un être de désir et pas seulement de besoin. Et tout ce qui fait la beauté de nos vies, c'est aussi les produits du désir et pas seulement du besoin. Et puis, une écologie qui, à mon sens, serait plus inspirante à s'allier avec l'économie, à pas dissocier l'économie et l'écologie, et à faire en sorte qu'elle accompagne le progrès et la modernité avec responsabilité. L'écologie sans l'économie, elle est très impuissante. L'économie sans l'écologie, elle est non responsable aussi. Donc l'alliage des deux me semble absolument nécessaire.
Et la politique également, puisqu'on a vu qu'au fond, les marches pour le climat font sortir beaucoup de monde dans les rues, en particulier les jeunes, et toujours dans une démarche radicale, de critique contre les gouvernants. Est-ce que c'est la nouvelle conscience politique planétaire, le climat ?
Alors, ça peut être un alibi pour critiquer effectivement ce qui est mis en place. Donc là, ce ne serait pas une bonne intention ou une bonne
ambition.
Mais ce que je perçois, et je le vois même à travers les entreprises, c'est-à-dire que les grandes causes sociales, sociétales, environnementales deviennent les finalités extérieures, les sens nouveaux qui motivent,
RSE,
qui attirent. Oui, exactement, qui attirent les plus jeunes. Et je regardais ça avec un peu de cynisme, pour être très honnête, il y a quelques années, en me disant les entreprises qui vont marquer une raison d'être, les entreprises à mission.
C'est de la com.
C'est du marketing éthique, c'est du marketing.
Et maintenant, c'est la responsabilité sociale, environnementale.
Voilà. Mais je me suis franchement trompée, parce que pour les gens, les plus jeunes que vous avez mentionnés, les 25-30, mais ce serait aussi valable pour les plus âgés, j'aime jamais raisonner en termes générationnels, mais enfin, pour les 25-30, tant à peu près, pourquoi aller bosser dans cette entreprise-là plutôt que dans telle autre, c'est parce que celle-ci répond à une raison d'être très claire. Et donc, c'est pas du tout de la foutaise, c'est aussi très rentable pour les entreprises, c'est pour ça qu'elles le feront, mais c'est aussi très rentable pour les entreprises de s'inscrire dans ces finalités environnementales, sociétales ou sociales.
On se retrouve avec Juliette Funès dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Pendant la crise, le monde change et continue d'avancer. Et dans quel sens, Juliette Funès est là pour nous le dire et nous donner justement un petit peu le sens de ce qui nous arrive. On écoute, on regarde des enseignants et des professeurs.
On peut que nous renforcer dans l'idée qu'on a un travail extrêmement important à faire dans la construction de l'esprit critique.
Peut-être créer des espaces de parole aussi pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'exprimer.
Entre tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, il faut leur permettre aussi d'avoir leur point de vue, mais avec des informations qui soient objectives.
Ils sont demandeurs de parler, de pouvoir donner leurs avis et de le faire librement.
Alors, l'assassinat, bien sûr, de Samuel Paty aura été un des événements les plus marquants de cette année 2020. La laïcité à la française, on l'a vu à l'étranger, est souvent mal comprise.
Oui.
Pour quelle raison, à votre avis ?
Même en France, elle est mal comprise.
Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est... Elle est parfois contestée, effectivement. Là, on en avait un.
Mais alors, à l'extérieur, à l'étranger, on a bien compris. On a vu qu'il y a une incompréhension totale.
Oui,
comment
vous expliquez ça ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames. Alors, nous qui critiquons toujours les amalgames dans un sens, il faudrait aussi les critiquer dans un autre. Et je crois que c'est au nom de la laïcité qu'on n'a pas respecté notre laïcité. C'est-à-dire, je vais faire en 3 temps, je vais essayer d'être synthétique. Mais en gros,
on a. Premier temps.
Je trouve que c'est la première année, justement, où on ose parler parler de ce problème-là et on assume une certaine laïcité combative, c'est-à-dire où on refuse vraiment de soumettre des comportements à des injonctions religieuses réactives. Mais pour la première fois, je l'ai vraiment ressenti cette année. Et en gros, il y a eu un premier amalgame entre laïcité et laïcisme, comme si la laïcité, c'était le refus de toute croyance, alors que c'est pas du tout ça. Laïcité, c'est que l'État n'a pas de religion, ne finance aucun culte et que le discours de l'État excède le discours des autorités religieuses. Le laïcisme, c'est être hostile à toute croyance, au fait de croire, c'est être théophobe d'une certaine façon. Mais du côté des islamistes fondamentalistes, la laïcité a été très vite amalgamée avec du laïcisme, c'est-à-dire on ne respecte pas nos croyances, on n'est jamais suffisamment représenté. Ensuite, le laïcisme a été amalgamé avec l'islamophobie, c'est une forme de racisme si on ne respecte pas mes croyances. L'islamophobie est une escroquerie intellectuelle, c'est un terme qui est incroyablement factice. Islamophobe, c'est pas, on peut être islamophobe, on a le droit de critiquer une religion, une confession, c'est pas du tout un délit.
Mais critiquer des personnes, c'est un délit. C'est là qu'il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhensions, même certaines jeunes collégiennes poursuivies, menacées à mort parce qu'elles critiquent.
Oui.
Peut-être qu'on peut critiquer la manière qu'elle a critiqué,
oui.
Mais elle critique. Donc c'est ce droit au blasphème qui est de moins en moins compris.
Oui,
vous comprenez
qui est assimilé.
Ça
mais c'est incompréhensible. C'est une imposture intellectuelle. L'islamophobie, encore une fois, c'est pas du racisme. On a le droit de critiquer toutes les religions. C'est un droit. Critiquer les personnes, c'est un délit. Mais donc là, on a assimilé l'islamophobie à du racisme anti-musulman, ce qui fait que laïcité égale laïcisme, laïcisme égale islamophobie égale racisme, et vous voyez dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Donc les amalgames ont été très nombreux, et je trouve que voilà, on est tombé. Donc le piège de la laïcité, ça a été d'accepter une laïcité assez tolérante, accueillante. Maintenant, je crois qu'il faut passer à un deuxième temps de laïcité, plus combative, qui refuse vraiment toutes les injonctions qui vont à l'encontre du cadre républicain.
Alors peut-être avec un nouveau piège, regardez Jean Bobéro, historien de la laïcité dans un entretien dans Le Monde, lui a pointé justement peut-être une dérive ou un effet pervers de la loi pour les principes républicains qui est en train de se discuter, en disant que cela poursuit la nostalgie d'une pureté laïque qui en fait n'a jamais été mise en pratique, ça mène à un fondamentalisme républicain. Est-ce qu'on ne risque pas de créer un nouveau problème ?
Oui, c'est vrai, j'ai pas lu la tribune, donc je veux pas en parler en détail, mais je trouve que l'idée est très juste de renverser la chose et qu'une certaine démagogie, en tout cas républicaine, fait que un autre fanatisme a pu se répandre de façon très insidieuse et très tentaculaire.
Alors, le curseur de la modération, il est où ?
C'est le cadre républicain et avoir le courage. Le problème, le curseur, on sait très bien quand ça dépasse le cadre républicain, c'est assez visible. Mais le gros problème, c'est pas tellement le curseur, c'est le courage de mettre en œuvre des principes constitutionnels qui permettent aussi cette mise en place.
Damien Fleurot.
Oui, Julia Tunès, on souhaitait vous faire réagir à la une du Time. Vous l'avez sans doute vu, le phénomène, en quelque sorte, Assa Traoré, donc la sœur de Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans, décédé après une interpellation, décédé à la gendarmerie de Persan. C'est un choix, selon vous, cette une du Time qui est significatif, c'est un choix militant.
Oui, c'est un choix militant, sans doute. Il y a toujours des intentions derrière un choix. Donc oui, c'est certainement. Après, on comprend aussi la une. Enfin, je ne veux pas être non plus complotiste ou imaginer des intentions malveillantes derrière. J'aime jamais me positionner sur les intentions vraiment d'un choix de titre. J'en sais strictement rien, à vrai dire.
Et cette figure, Assa Traoré, qui a pris de l'importance au cours de cette année 2020, que l'on a vu dans des rassemblements contre des violences dites policières, qui a créé la polémique parfois d'ailleurs, jusque dans les récents propos du chef de l'État.
Ah oui, mais c'est très difficile là encore comme sujet, c'est-à-dire qu'à la fois on comprend l'autorité policière et la liberté qu'on doit laisser aussi à certains policiers pour assumer cette autorité. On a une crise d'autorité en France et même, je pense, ailleurs aussi très forte, qu'on confond avec l'autoritarisme. Là, dans ce cas-là, c'était vraiment pas de l'autorité, c'était vraiment c'était innommable comme pratique. Mais encore une fois, il faut distinguer ces pratiques qui sont vraiment extrêmes et catastrophiques, et puis l'autorité nécessaire des policiers ou des politiques pour augmenter et sécuriser enfin le pays. Donc le curseur, là encore une fois, est très difficile à mettre.
Oui, parce qu'en réfléchissant à cette partie à travers une table, mais aussi en réfléchissant à ce qui nous est arrivé en France, avec le tabassage donc, de Michel Zecler, où on a vu au fond des images qu'on avait plutôt l'habitude de voir outre-Atlantique arriver maintenant en France, On peut se dire que quand on réfléchit sur la violence policière, on fait obligatoirement de la philosophie, parce que c'est d'abord dénommer un concept. Qu'est-ce, un État, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peut-être Emmanuel Macron a eu un peu de difficulté à l'admettre lorsqu'il a été interviewé par Brut. Il parlait de violence légitime, mais à un moment donné, est-ce que... comment on fait la différence entre la réalité qui vient télescoper tout le monde et un concept sur cette violence légitime que détiennent les policiers?
Oui, c'est un problème. Bon, tout est problème philosophique. Hein, pour moi, n'importe quel sujet d'actualité.
Mais on va dire qu'on peut s'en étonner.
Mais est-ce que toute violence est légitime? Mais quand même, je trouve que c'est quand même assez visible. C'est frappant de voir quand même qu'il y a des violences qui sont illégitimes, où on tue quelqu'un, où on est vraiment immoral, amoral avec cette personne, immoral avec cette personne-là. Et puis des violences plus légitimes, où là, ça fait partie du métier de sécurisation des choses. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus instrumentaliser ces images-là qui sont certes à montrer et avoir conscience de cette souffrance-là, bien sûr, c'est une chose, mais ne pas pour autant discréditer les pouvoirs des autorités et discréditer le pouvoir policier non plus.
Damien Fleurot.
Oui, si on résume un petit peu les effets de la crise sanitaire qui a frappé notre pays, qui a frappé notre monde, des vies dévastées, des entreprises en faillite, des grands-parents qui se retrouvent sans pouvoir embrasser leurs petits-enfants, les amis qui deviennent un facteur de risque, chanter, danser aussi, plus possible quasiment de faire un office religieux sans qu'il y ait une suspicion de contamination. Est-ce que le monde de demain, le monde de 2021, ce n'est pas finalement retrouvé le monde d'avant? Tout simplement.
Non, je crois pas. Je crois pas que.
C'est pas un désir des gens qui disent.
Ah non, si, sur ces aspects-là, de retrouver, bien sûr, d'embrasser.
Quand est-ce qu'on va revenir comme avant?
Oui, bien sûr. Mais après, je crois pas qu'il faille revenir non plus totalement comme avant. Il y a des bonnes avancées, il y a des choses qui ont changé durant cette année, qui seront des très bonnes choses. On parlait tout à l'heure du télétravail. Ça peut être de façon hybride, pas le télétravail confiné, bien sûr. Mais il y a des choses qui ont changé et qui sont des très bonnes choses. Néanmoins, effectivement, les rapports charnels entre personnes qui s'aiment sont très attendus. Heureusement, on n'est pas un peuple qui ressemble à certains peuples asiatiques. Je crois que ce n'est pas dans notre culture.
Oui, parce qu'on voit là, on a l'impression qu'effectivement, ce sont les us et coutumes un peu asiatiques qui viennent avec la distanciation qui devient un code social.
Oui, c'est ça. Mais je ne crois pas. Regardez, on n'en peut plus. On trépigne d'impatience. Je ne crois pas que ce soit dans notre culture et dans notre façon d'être d'accepter cette distanciation en permanence.
Vous pensez que le masque, ce sera finalement fini avec le vaccin en 2021?
Ah, j'en sais strictement rien. Ça, c'est vraiment des mesures sanitaires. J'en sais absolument rien. Mais j'espère pas. Je suis dans un optimisme de volonté qu'on va vivre avec le masque durant des années. C'est pas possible. C'est un monde sans visage. C'est affreux pour des latins. Je crois que c'est absolument impossible à accepter.
En tout cas, avec de plus en plus d'écrans. Nicolas Barré.
Oui. 2020, ça aura aussi été l'année qui a consacré encore plus l'extraordinaire puissance des GAFA. Ils veulent battre leur propre monnaie, ils sont parfois au-dessus des lois, ils veulent organiser l'opinion publique mondiale, c'est même devenu une sorte d'agora mondiale. Ça vous fait peur et comment est-ce qu'on peut les réguler?
Non, ça ne me fait pas peur. Je suis à la fois fascinée par ces monstres, par ces géants. Quand on voit Amazon, c'est fascinant quand même, la puissance de cette machinerie, etc. Et en même temps, très compréhensive aussi de l'impact que ces GAFA-là ont sur des plus petits commerces, etc. Donc non, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'inquiétude. Je crois que la peur est toujours la moins bonne conseillère qui soit. Mais c'est comment on peut, pas contrer, mais accompagner au mieux soit l'intelligence artificielle, la digitalisation, la robotisation, et c'est certainement pas en se mettant sur le même credo. Donc je pense qu'il faut qu'on mise sur notre spécificité. Pour l'instant, en intelligence artificielle, on est très en retard en France. Donc c'est miser sur ce qu'on a de spécifique pour ne pas en faire des puissances autonomes qui viennent tout gouverner, mais des moyens à notre service.
Et c'est ce que disent par exemple des chercheurs ou intellectuels ou spécialistes de l'évolution des sociétés. Vous prenez par exemple Yuval Harari, il explique que le dataïsme, c'est la nouvelle religion, qu'on transfère déjà, ne serait-ce que par exemple sur Waze, naturellement, mettant une partie de notre cerveau, de notre recherche, de notre autonomie. Oui. Est-ce que ce n'est pas le danger qui préfigure cette évolution?
Ah bah si, sur le fait d'être lisible, complètement connu de tous, ça
les
on est déjà, les algorithmes,
Netflix,
ça c'est
et le média des algorithmes.
Oui, exactement. Mais il y a aussi toujours la fiction de qui va gouverner le monde, qui va nous maîtriser. Je pense que c'est une peur assez archaïque. Donc tout dépend de nous. C'est nous qui créons quand même ces puissances colossales. Donc à nous aussi de réguler et d'ajuster pour en faire des moyens le plus intelligents possible. Mais la peur, de toute façon, à quoi sert-elle là, dans ces domaines-là? Rien.
Eh bien, on aura moins de 4 heures pour y répondre. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Dernière partie de ce grand rendez-vous avec Juliette Funès, philosophe et spécialiste en ressources humaines. Le 2 décembre 2020, c'était le décès de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. On écoute, on regarde.
Je souhaite que la Providence veille sur la France. Au revoir.
Quelques lendemains, d'ailleurs, on a eu l'hommage du président de la République actuel, Emmanuel Macron, qui aussi a rendu hommage à Jacques Chirac depuis le début de son quinquennat, qui a marqué l'année de Gaulle 2020, qui l'année prochaine marquera l'année Frédéric Mitterrand. C'est le président François. Tous en même temps. François Mitterrand, pardonnez-moi. C'est le président du Tous en même temps.
Je critique pas ça. Moi, j'aime pas être au-delà des.
Non, c'est une question, c'est pas une demande de critique.
Non, du tous en même temps. Bah, écoutez, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans le en même temps. L'anti en même temps, c'est Trump. Et c'est des gens qui vont trois dans une direction et de façon assez obtuse. Donc, j'ai plutôt. Il y a une partie intelligence de ça en même temps. Et après, il y a une partie évidemment de confusion. Mais
oui, parce que vous êtes aussi en même temps dans la critique et dans l'acceptation. Parce que j'ai entendu et lu des interviews de vous où vous étiez assez critique sur le en même temps en disant voilà,
oui,
on est dans une posture de grandeur et en même temps on vient contrôler nos vies.
Exactement, bah je mène le concept du en même temps jusqu'au bout. C'est-à-dire même dans la critique, il y a parfois du bon en même temps et du en même temps complètement absurde.
C'est quand même une manière de rendre compte de la complexité du monde.
Exactement.
Souvent les politiques ont tendance à voir les choses en peut-être un peu trop en noir et blanc. Les médias aussi, ça leur arrive.
Exactement, donc c'est quand même une marque d'intelligence. Aucune situation n'est lisible de façon binaire. Donc c'est une marque d'intelligence. Après, il y a eu des mesures qui étaient tellement confuses, tellement contradictoire en soi, que le en même temps devenait confusion. Mais le en même temps peut être à la fois complexité, nuance, intelligence, et puis confusion et absurdité totale.
Alors, il y a une autre vision. Damien Fleureau.
Oui, la vision d'Arnaud Montebourg, opposant du chef de l'État. Il était aussi à ce micro il y a quelques semaines, et il dressait un portrait d'Emmanuel Macron. Écoutez-le.
Quand vous épousez des costumes différents en changeant de façon très rapide... vous avez perdu le crédit de l'être de conviction que généralement vous prétendez être. Donc il faut trouver la bonne méthode pour battre M. Macron dès le premier tour et pour faire un autre projet
au moins
que le projet de Frégoli, si vous voulez, où on change de costume toutes les secondes.
Juliette Funès, on va pas vous demander s'il faut ou pas battre le président de la République. On ne sait pas s'il sera d'ailleurs candidat à sa
réélection. C'est bizarre comme projet. C'est vraiment l'unique finalité, on a l'impression.
Mais quel personnage est Emmanuel Macron, selon vous? Certains disent effectivement Frigoli, Rastignac, Machiavel.
Mais c'est affreux cette émission, je ne peux pas dresser le déjà,
non,
je ne suis pas psychologue.
Pas, c'est affreux.
Mais non, ce n'est pas affreux, c'est sympa, mais vous me posez des questions abominables. J'en sais absolument rien de qui est le personnage de Macron, mais
arriver.
Ce qui est très intéressant avec la phrase de Montebourg juste avant, il dit, voilà, il insiste sur le confucianisme du en même temps et sur l'absence de conviction. Et ce qu'incarne quand même malgré tout aussi le en même temps, c'est l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir des convictions et en même temps opter pour une autre voie parce que les conséquences de l'action ne sont pas...
Et c'est audible, cette façon de présider aujourd'hui, au XXIe siècle.
Oui, parce que moi, je crois beaucoup en l'intelligence des Français. Je ne crois pas du tout qu'on soit un peuple débile qui a besoin d'une seule direction pour comprendre. Je crois au contraire que la nuance, il faut beaucoup de pédagogie, bien sûr. Il faut beaucoup de compréhension et des choses, bien sûr, sensées. Mais enfin, je crois qu'on est tout à fait apte dans notre pays à comprendre, à accepter le en même temps. Et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, son succès. Il a quand même été élu. Donc, on l'a bien compris. On a bien senti cette nécessité d'intelligence, de complexité. Mais encore une fois, ça peut aller contre certaines convictions. Mais la conviction n'est pas le meilleur guide forcément dans les affaires politiques.
Je vous écoute faire effectivement l'éloge de la complexité, c'est normal et c'est heureux. Mais en même temps, c'est là-dessus, à ce sujet, qu'il y a une forme de déconnexion et d'incompréhension entre la société française, en tout cas beaucoup d'électeurs français, et Emmanuel Macron, parce que cette fameuse pensée complexe qui a été mise en enseigne dès le départ par le macronisme, on va dire, n'a pas été perçue. Elle a été perçue comme de la distance, comme de l'arrogance.
Oui, alors pour moi, ce n'est pas la pensée complexe qui a été perçue comme ça. C'est lui, c'est-à-dire c'est l'incarnation, c'est ce qu'il est, ce qu'il représente.
Hein,
une forme d'élitisme, une réussite sociale. Il a tout, c'est très énervant quand, de tout avoir pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de jalousie qui se crée. Il y a parfois aussi une hauteur de vue, une certaine distance qu'il a instaurée. Et donc, il peut être mal vécu pour certains. Donc c'est surtout ce qu'il incarne qui a été mal vécu. C'est pas cette pensée complexe que chaque Français comprend et accepte dès lors qu'on lui explique.
Jean Castex, c'est un petit peu pour rééquilibrer cette image que vous venez de décrire. C'est
ah non, ça c'est l'accent, c'est même pas Jean Castex, c'est l'accent qui réimplante un peu dans la tête.
Justement, au-delà de l'accent, comment est-ce que vous l'avez
lu ? Il est quand même très élitiste aussi. Hein. C'est
Vous n'achetez pas le côté suranné, sous-préfet à Matignon.
Je trouve que c'est l'image, on a voulu jouer. Peut-être qu'on a voulu jouer pour ça, mais là il ne faut pas prendre les Français non plus pour des imbéciles et il ne suffit pas d'avoir un accent pour incarner. C'est un peu comme vraiment. Je ne veux pas faire de politique, mais il y a des candidats comme ça qui ont voulu jouer la carte du peuple, alors qu'ils n'en sont pas du tout. Ou enfin, qui, bien sûr, on est tous du peuple, mais en tout cas, qui sont dans une sphère beaucoup plus élitiste, beaucoup plus bourgeoise. Quand on est bourgeois, il faut assumer d'être bourgeois. Quand on n'est pas bourgeois, il faut assumer de pas être bourgeois. Mais à un moment, vouloir jouer sur les deux tableaux, je trouve que c'est d'une hypocrisie sans borne. Et les gens, c'est ça qui me fascine toujours, d'ailleurs, à propos de mon grand-père, on en reviendra peut-être, ressentent vraiment la vérité des sentiments des êtres. C'est assez miraculeux, assez incroyable de se dire, malgré toute l'apparence qu'on peut bien prendre, les gens visent juste
en masque.
Il démasque en général.
2020, année de Funès, Louis de Funès.
Oui, pas moi.
Bien sûr, c'est pour ça que je faisais l'effet. Il a été honoré par la Cinémathèque française, une nouvelle consécration. On écoute, on regarde.
L'acteur le plus populaire du cinéma français.
Qui ça ?
Louis de Funès à la Cinémathèque française.
Moi ?
C'était normal de faire venir le plus grand comique français qui reste le héros de cinq générations dans la maison du cinéma.
Quoi ? Non, ce n'est pas raisonnable.
Tout simplement, je suppose que vous voyez, revoyez ces images. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois que vous voyez cet acteur comique qui est votre grand-père et qu'on présente comme étant celui qui fait rire depuis cinq générations ?
Oui, c'est formidable. Et puis de voir qu'en période de crise ou de détresse, finalement, il a été... J'ai même eu un peu peur avec ma famille lors du premier confinement. On se trouvait qu'il y avait trop de films. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On a dégoûté les Français à force d'en mettre toutes les semaines, etc. Mais c'est une reconnaissance qui fait vraiment chaud au cœur, surtout qu'il l'a pas connu, lui, de son vivant. Quand les personnes qui parlaient là, de la Cinémathèque disent c'est normal, ça a pas été normal pendant plus de 30 ans. Donc
oui,
c'est normal maintenant, mais le mot
mis
est
au
un
banc,
peu facile.
Au contraire,
il
des hautes sphères du cinéma français.
Exactement. Donc c'est une reconnaissance. Qu'est-ce qui
s'est passé ?
Parce que l'intellectualisme, le snobisme parisien et puis le côté très populaire des films étaient complètement, évidemment, n'allaient pas ensemble. Et donc souvent, effectivement, il y a une sorte de...
Son humour ne se démodera jamais, finalement.
Ça, j'en sais rien. Vous êtes le spécialiste des questions sur le futur. À chaque fois, je vous réponds avec difficulté.
Oui, bien sûr.
Parce que se projette.
Tout se démode. Mais en tout cas, pourquoi le secret, la fameuse question toujours sur le secret de la pérennité, j'en sais strictement rien. On ne peut pas l'expliquer juste par le talent, parce qu'il y a des acteurs inouïs. Je pense à Chaplin ou Bourville, peu importe, Gabin, etc. Et on voit moins les films, alors qu'ils ont un talent en monstre. Donc, on ne peut pas l'expliquer simplement par le génie ou le talent de l'acteur. Je crois que c'est vraiment... J'ai plutôt une interprétation un peu proustienne du phénomène, c'est-à-dire que quand on regarde un film, on se retrouve soi-même avec ses parents, ses grands-parents, c'est des retrouvailles avec soi-même. Il a réussi, sans le vouloir, certainement, j'en sais rien, je ne peux pas le faire parler, mais à être l'intercesseur entre soi et soi-même, soi et sa famille, une France d'aujourd'hui et une France très glorieuse et très heureuse
que
des années 60,
qu'on
a beaucoup envie de retrouver. Voilà, donc
Nicolas Barré.
C'est une vraie retrouvaille.
Mais est-ce que la liberté de ton qu'il incarnait d'une certaine façon, on pourrait la retrouver à l'identique aujourd'hui avec autant de force? Est-ce qu'il y a certaines scènes, certains films, on pense à Rami Jacob, qui pourraient être tournés?
Moi j'aime beaucoup le sketch de Blanche Gardin qui dit, parce qu'elle reprend un peu toujours cet argument en disant Pierre Desproges ne pourrait plus dire, et elle le dit elle-même et elle peut tout à fait le dire.
Elle
est assez formidable. Vous imaginez le ton de ton et les propos d'une femme comme Blanche Gardin aujourd'hui, qui sont très libres. Donc je crois pas qu'il y ait une censure plus forte. Je crois qu'il faut un temps pour que l'intelligentsia et parfois l'opinion acceptent ce qui est dit, mais je ne crois pas que ce soit...
L'humour est plus fort que le politiquement correct.
Ah oui, c'est la plus grande arme pour tout. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas plus fort que l'humour.
On évoquait effectivement les films très populaires et avec beaucoup de succès, très gros succès aussi en salle de votre grand-père et d'autres. Mais est-ce que justement les grands blockbusters, je dirais, de la comédie au cinéma, les comédies françaises, les Ch'tis, la Grande Vadrouille, Intouchables, ceux qui ont fait 10, 15, 20 millions... Est-ce qu'ils racontent pas autre chose que tout simplement l'histoire du film ? Est-ce qu'ils ne sont pas un arrêt sur image sur ce que nous sommes à
chaque
fois ?
Si, c'est parce que l'histoire du film avec mes grands-pères, avec mon grand-père, sont quand même pas d'une force, à part quelques-uns et 4-5 gros.
La Grande Vadrouille ?
Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas.
Qui a été une référence permanente.
Je ne crois pas que ce soit... Les gens ne regardent pas 20 fois le même film. On ne regarde pas Les Bronzés pour le scénario des Bronzés. On regarde parce qu'on aime l'ambiance du Bronzé et qu'on aime se retrouver. Donc je ne crois pas du tout à la force du scénario, même s'il y a eu des très bons scénarios, mais je crois plutôt au fait qu'effectivement, ce sont des films qui appuient sur quelque chose d'intemporel, d'existentiel, qui sont les failles humaines. Vous prenez des ch'tis, vous m'avez cité
Intouchable.
Un autre, voilà, Intouchable. Mon grand-père essayait effectivement de mettre en exergue tous les travers les plus bassement humains, et ça, ça dure, et malheureusement, ça reste. Donc on se retrouve, et c'est très philosophique d'une certaine façon, pas au sens évidemment académique du terme, mais c'est décortiquer l'humain et voir ce qu'il y a d'intemporel malgré la temporalité des événements qui passent.
Merci Juliette Funès de m'avoir accompagné durant ces derniers mètres de 2020 et nous projeter sur 2021. Bonne fin d'année à tous, bonne fête, à bientôt. Europe 1.